Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Covid-19, où en sommes-nous ? Bonjour Jonathan Freund.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes professeur médecin urgentiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Hier, combien avez-vous vu de malades du Covid-19 à l'entrée aux urgences à la Pitié ?
Zéro, exactement zéro, sur toutes les 24 heures d'hier. Zéro malade.
Et les jours auparavant ?
Aux urgences, ça fait, je dirais, une bonne semaine au moins qu'on n'a pas vu un malade avec une infection aiguë récente du Covid.
Et alors, est-ce qu'on peut généraliser ça aux autres hôpitaux en France, Jonathan Freund ?
Eh bien, mes collègues des autres hôpitaux d'Île-de-France, en tout cas, et même d'ailleurs, voient exactement la même chose que nous. Certains, même à l'étranger, me disent la même chose. Donc, si on parle vraiment des malades, hein, avec une contraction récente du virus et avec une maladie qui s'exprime, c'est extrêmement peu.
Mais alors, pourtant, il y a deux jours, par exemple, j'ai vu qu'il y avait 440 tests positifs à l'échelle de la France. Ça signifie quand même qu'il y a encore des gens qui sont contaminés par la Covid-19, professeur.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites. Il y a des tests positifs tous les jours. Il y a des centaines de personnes qui sont positives, c'est-à-dire chez lesquelles on trouve du virus dans le nez, en gros. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous malades, loin de là. Parmi eux, il y a une petite proportion de gens malades. Il faut voir le nombre d'hospitalisations, par exemple, qui est assez faible. Mm-hmm. Et oui, le virus existe encore, il circule encore et il se retrouve chez les gens encore et on le détecte.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que, comme il y a beaucoup plus de tests effectués, eh bien, le nombre de positifs augmente ? C'est ce à quoi ?
Évidemment.
C'est-à-dire, justement, comment ça se passe ? Expliquez-nous, professeur.
Plus on teste de gens, plus on a de chances de trouver des positifs. C'est-à-dire que plus vous allez lancer de tests, plus le nombre, fatalement, de tests positifs va augmenter. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a plus de cas positifs nouveaux aujourd'hui, par exemple, qu'il y a deux semaines, puisque simplement, on en a testé beaucoup plus.
Et alors, le fait aujourd'hui qu'on en ait testé beaucoup plus, qu'on ait donc un certain nombre de positifs, est-ce que ces positifs, ils tombent moins gravement malades qu'auparavant ? Est-ce que, par exemple, on pourrait dire, je vais vous le dire de manière extrêmement schématique, mais que le virus est moins méchant qu'auparavant ?
Alors, c'est une possibilité qu'on trouve beaucoup de cas positifs maintenant et très peu de cas qu'on hospitalise. Donc, une possibilité pourrait être de dire le virus commence à être moins méchant, à s'épuiser, à s'essouffler, à muter, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas forcément ça. C'est peut-être aussi que simplement le taux de malades est très faible parmi les porteurs et qu'on détecte énormément de porteurs sains maintenant, ce qu'on ne faisait pas avant. Sur un dépistage systématique actuellement, vous allez faire un dépistage systématique, donc forcément trouver des malades positifs, qui étaient ce qu'on appelle des porteurs sains, et ce qu'on ne cherchait pas avant.
Donc différentes interprétations sont possibles. Professeur, vous qui êtes urgentiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris, ça fait combien de temps, diriez-vous, que le rythme s'est ralenti parce que vous avez vécu cette vague, comme on l'appelait autrement dit, cet afflux considérable de malades, parfois dans un état très grave, arrivant aux hôpitaux et notamment aux urgences ?
Oui, on a vécu cette vague d'une extrême violence, comme tout le monde pourra vous le dire. Mais ça s'est calmé à peu près un peu après ce qu'on appelait le pic, mais surtout c'est devenu très très calme depuis plus d'un mois. Voilà, plus d'un mois qu'on reçoit extrêmement peu de malades Covid aux urgences, et donc de moins en moins chaque semaine.
Et alors, comment l'explique-t-on ? Parce que on a pu lire, par exemple, une hypothèse au sujet de l'immunité croisée. Qu'est-ce que ça signifierait ? Qu'est-ce que ça impliquerait ?
Alors c'est une hypothèse, c'est juste une hypothèse pour l'instant, mais d'une manière plus générale, il faut voir qu'il y a une immunité ou une immunisation de la population qui est probablement plus grande que celle à quoi on s'attendait, que celle que les projections laissaient entendre. Alors pourquoi plus de gens sont immunisés ? Peut-être, probablement parce qu'il y a une part d'immunité croisée, c'est-à-dire, comme on commence à l'entendre, c'est-à-dire que vous avez eu un autre coronavirus, un rhume banal, il y a 6 mois ou 2 ans, et vous avez gardé une certaine immunisation contre d'autres coronavirus. Ça, c'est une hypothèse qui est réelle, mais on ne sait pas de quelle ampleur, à quel niveau ça impacte, si vous voulez, la population. Mais il y a aussi, évidemment, une part de la population qui a une immunité innée, je veux dire spontanée. Par exemple, les enfants ne sont pas contaminés, ils ont probablement une immunité. Il y a beaucoup de personnes chez qui le virus ne va pas rentrer, ne fera pas de maladie.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, au-delà de ça, si depuis quelque temps, professeur Freund, vous ne recevez pas de nouveaux malades aux urgences, est-ce que ça signifie, par exemple, que vous remettriez en cause l'utilité du confinement ?
Ah, pas du tout, pas le moins du monde. Le confinement a une utilité vital. Le confinement était indispensable, le confinement a sauvé des milliers de vies probablement, le confinement a permis de ne pas dépasser les capacités d'accueil des hôpitaux alors qu'on prenait cette vague d'une extrême violence d'un coup. Donc le confinement ne peut pas être mis en cause.
Mais alors, aujourd'hui, les précautions qui sont prises, est-ce qu'elles vous paraissent adaptées? Par exemple, vous parliez des enfants, on sait que ces précautions, eh bien, elles ont des conséquences pour l'école, elles ont des conséquences dans beaucoup d'autres domaines. Qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous?
Pour l'école, je pense que c'était logique à l'époque, il y a 3 mois, de commencer par fermer les écoles en pensant que c'était un grand vecteur de contamination. Maintenant, on sait que c'est pas du tout le cas. Non seulement on sait que les enfants sont pas vecteurs et ne sont pas à l'origine de foyers de contamination, mais surtout on se rend compte qu'il y a plus de cas aujourd'hui. Donc effectivement, en termes de mesures, les restrictions sur l'accès à l'école me paraissent extrêmement exagérées. Je me l'explique pas vraiment. Et les autres mesures actuellement, bon, elles sont en train de s'ouvrir tout un petit peu là, on est en train de tout relâcher progressivement, fort heureusement, je pense que c'est vraiment le moment, il faut pas hésiter. Par contre, le conseil scientifique reste très très prudent. Par exemple, si on suit l'hypothèse qui pour eux est l'hypothèse la plus probable et la plus optimiste, celle d'un contrôle total de l'épidémie, ils préconisent quand même de garder des mesures, des restrictions, des gestes barrières pendant à peu près 6 mois au moins. Et en particulier, ils disent un recours à l'école de manière adaptée. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne ferait pas un retour à l'école normal, tout court, à la rentrée, si tout est aussi calme qu'aujourd'hui.
Il y a une hypothèse qui nous fait tous peur, professeur Freund, c'est l'hypothèse d'une seconde vague. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur sa possible survenue, je ne sais pas, à l'automne par exemple?
Alors oui, la seconde vague qui surviendrait maintenant à la levée du confinement cet été, non, clairement, il n'y a aucune raison de penser ça. Tous les indicateurs qu'on a et toute la réalité du terrain montrent que ça n'arrivera pas. En revanche, la possibilité d'une seconde vague à l'automne, à l'hiver prochain, bon, elle existe, mais j'ai envie de dire, elle existe tous les ans. Tous les ans, on peut avoir un virus qui mute, un nouveau virus qui arrive et qui touche la population. Celui-là peut revenir en mutant, comme c'est souvent le cas. A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il mute contre quelque chose de méchant. Il peut revenir comme il est d'habitude, un coronavirus banal. Maintenant, s'il revient exactement pareil chez nous, dans la population, l'hiver, la deuxième vague pourrait arriver, mais elle ne sera jamais d'une ampleur telle que ce qu'on a connu. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui... Même si elle revient, elle sera beaucoup plus modérée.
C'est ce qui explique peut-être que le Conseil scientifique écarte a priori l'idée d'un autre confinement. Professeur Freund, une dernière question, puisque vous êtes urgentiste, vous avez vécu cette vague d'une grande violence. Le Ségur, est-ce que vous en attendez beaucoup?
Ah non, j'en attends rien du tout, moi, le Ségur de la santé. J'en attends absolument rien. Je suis très, très admiratif de mes collègues qui y croient encore et des gens qui vont passer du temps à faire ça. Mais je ne vois pas ce qu'on peut en attendre. Je veux dire, c'est pas la première fois. On a eu des années de grève, de revendications. Il s'est jamais rien passé. Même quand il y a eu des déclarations, ça n'a jamais été suivi d'effets ou d'améliorations pratiques. Les hôpitaux, et en particulier ce que je connais, les services d'urgence, sont dans une lente descente. Et je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. On se donne rendez-vous, si vous voulez, l'année prochaine pour voir ce qui a changé.
On va voir laquelle de vos hypothèses se révèle exacte. En tout cas, j'espère que vous avez raison sur l'assoupissement du virus. Merci, professeur Freund.